Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Steve Fortin, Marie Montpetit, bonjour.
Salut.
Salut.
Bonjour à vous deux. Là, on n'y est pas encore totalement dans la fièvre la fièvre préélectorale au fédéral. Hein, ça s'en vient éventuellement. Et là, les sondages commencent à sortir, à tout le moins de manière indicative. Steve, toi, t'en avais vu passer un, puis c'est toi qui as mis ça sur notre radar. Les libéraux chancelant un peu, là.
Oui, ben en fait, deux dates importantes à retenir pour ce qui est des sondages. J'ai placé, par exemple, le 14 septembre 2022, Pierre Poilievre devient chef du Parti conservateur. Puis, de manière peut-être un petit peu moins importante, mais il faut le noter quand même, 19 novembre, Elisabeth May revient à la tête du Parti vert. Depuis le 14 septembre, il y a eu 34 sondages qui ont été faits, répertoriés là au fédéral. Deux fois, le Parti libéral a été en avance et c'était toujours à l'intérieur de la marge d'erreur, c'est-à-dire le 25 novembre, toujours Nanos là, qui voyait le Parti libéral en avance là, de 0.07, 31 à 30.3, puis le 11 novembre, la même firme, quelques jours avant, 32.9 contre 31.3. Dans les 10 derniers sondages, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du 9 décembre à aujourd'hui, le Parti conservateur, le Pierre Poilievre, mène toujours par en moyenne de 5 points, donc au-delà de la marge d'erreur. Récemment, la semaine dernière, plutôt cette semaine, je veux dire, David Coletto, qui est de la firme Abacus Data, dans son analyse, parce qu'il faut regarder aussi, c'est une chose des sondages, mais personnellement, je m'intéresse toujours à la méthodologie, aux échantillons et aux sous-échantillons régionaux, bien sûr, puis à l'analyse qu'en font les gens de chaque firme. Mais ici, c'est intéressant. David Coletto dit ceci: le plus troublant pour les libéraux dans ces chiffres, c'est comment ils se positionnent, ces libéraux, sur les enjeux qui sont les plus importants pour l'électorat. Par exemple, l'inflation, priorité numéro un. Les libéraux sont en troisième position. Le NPD fait mieux que Justin Trudeau, par exemple, sur cette question-là. Sur des enjeux comme l'économie, les soins de santé, le logement, encore une fois, ils sont à la traîne. Les libéraux mènent par rapport à la gestion de la guerre en Ukraine, mais c'est une priorité juste pour 6% des répondants. L'efficience du vote, c'est un concept, quand on regarde les sondages, qui est absolument essentiel. Qui est capable de bien faire sortir son vote? Tout ce qui est à l'ouest de l'Ontario, là, c'est troublant pour le Parti libéral. On est en troisième place partout. Et le NPD reprend des forces dans l'Ouest, notamment en Colombie-Britannique, j'y reviendrai peut-être. Le Parti conservateur, toutefois, est à la traîne au Québec et ça s'améliore pas dans son cas. Le vote du Parti libéral en Ontario, statistiquement, 37-36, 37 pour les conservateurs, 36. Dans le Toronto, bien entendu, le Parti libéral est très fort, mais son vote est très concentré. Puis au Québec, pour ceux qui nous écoutent, donc, c'est 37 pour les libéraux, 30 pour le Bloc. Mais encore une fois, le vote des libéraux est très concentré. Qui dit vote très concentré, dit aussi une efficience du vote qui est un petit peu moins grande parce qu'on a trop de gens qui nous appuient dans une petite région donnée.
Ça, historiquement, c'était plus les conservateurs dont le vote était trop éparpillé. Donc, ouais, vas-y avec ta conclusion, je vais entendre Marie là-dessus.
Oui, juste en terminant là, quand on parle de fièvre électorale, je peux vous dire que de plus en plus chez les conservateurs, on commence à se demander qu'est-ce que va faire le NPD parce que on pourrait vouloir faire monter la pression fin 2023, début 2024 parce qu'il y a des élections provinciales quand même dans des grandes provinces là, qui s'en viennent cette année.
Ouais, pour être méchant, le NPD, c'est un groupe de pression. Puis à la fin, les électeurs prennent peur puis ils votent libéral. Marie, tu vois-tu ça comme ça?
Ben là, tu sais, moi, en tant que politicienne, je veux dire, on les regarde pas, les sondages. L'hirondelle fait pas le printemps, Guillaume, on les commente même pas en politique, ces sondages-là. Mais, ben, tu sais, écoute, tu parlais de la fièvre électorale. Moi, je la sens pas encore. Je pense que mon feeling aussi, je fais partie du camp qui pense que les troupes du PLC sont en train de se mobiliser. Je serais pas surprise s'il y a une élection. Je suis pas sûre qu'on est dans un contexte de super fièvre électorale, en tout cas. Pas quand on prend tout, mais il est tôt pour commencer à tirer des conclusions. conclusions à partir de ce sondage-là, mais là où je rejoins Steve, c'est que ça fait quand même plusieurs sondages qui s'accumulent. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que c'est une tendance qui se dessine? Parce que tu sais, un sondage, c'est une photo, c'est une journée, ça vaut pas grand-chose. Mais là, c'est plusieurs, effectivement, sondages qui s'accumulent. C'est une tendance qui commence à se dessiner. Est-ce qu'elle va se poursuivre? Bon, je suis pas convaincue que le PSC, que le Parti libéral du Canada est à risque de tomber en bas de 100 sièges, mais j'imagine que l'avenir nous le dira, Charles.
Parce que là, Steve, le Parti conservateur a de la difficulté avec les femmes, puis tu sais comment ça marche. Hein? C'est-à-dire qu'au Parti libéral, oui, quand ça va mal, il y a un premier tiroir. C'est-à-dire qu'en cas de panique, ouvrez ce tiroir. Puis là, ça dit, parlez des armes à feu. Puis là, tu refermes le tiroir. Puis en cas de panique, ouvrez le deuxième tiroir. Puis là, ça dit, parlez du droit à l'avortement. Puis là, ça ferme ça. Puis le troisième tiroir, c'est, dites aux gens du NPD qui vont faire élire un conservateur. Puis habituellement, avec trois tiroirs, là, tu t'en sors, là. Tu penses vraiment, toi, qu'il y a une vague conservatrice parce qu'ils sont pas si loin, là. Ça fait deux élections que les conservateurs ont plus de votes que les libéraux, là.
Oui, je ne sais pas si on va parler de vague conservatrice. Chez Québécois, donc au Journal de Montréal, par exemple, on fait appel à l'agrégateur de sondage Brian Breguet, souvent « Too close to call ». Sur son compte Twitter, il fait des modélisations. Puis lui, il dit, mettons, en 2025, lui, il voyait ça, 150 sièges conservateurs, 120 libéraux, puis 35 pour le NPD. 31 pour le bloc, là. Mais là, quand on regarde la tendance, parce que là, on parle quand même sur plusieurs mois, plusieurs enquêtes, plusieurs sondages, puis de firmes différentes, certaines plus à gauche, là, on dira qu'ils penchent plus à gauche, d'autres plus à droite. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que Justin Trudeau va avoir une grande décision à prendre. Puis j'écoutais Chantal Hébert ce matin j'ai tendance à être assez d'accord avec elle. Justin Trudeau en ce moment rencontre un à un. Tu sais, en ce moment au Québec, François Legault rencontre les chefs d'opposition. Ben à Ottawa, Justin Trudeau rencontre ses ministres un à un. Puis selon Chantal Hébert, une des raisons pour ça, c'est de savoir un peu qui veut rester, puis qui peut-être dans ces ministres qui sont peut-être un petit peu plus avancés en âge, on a la courtoisie de leur dire, ben est-ce que tu vas te présenter la prochaine fois parmi ces ministres, notamment ces ministres les plus les seniors.
Ça, on utilise ça des fois pour planifier un remaniement aussi là.
Oui, ça on en parle aussi, mais là où je veux en venir, c'est que est-ce que Justin Trudeau lui-même, il a fait part de sa volonté de vouloir en découdre avec Pierre Poilievre. Je le comprends ça, mais à un moment donné, ces sondages-là, quand on les regarde aussi dans les différentes régions, ça va être difficile de recruter en Colombie-Britannique un terrain, par exemple, électoral important, là, il faut le dire, quand le NPD est à 30% puis qu'il s'enracine, puis loin derrière, on a les libéraux, ça va être un petit peu plus difficile, puis il faut planifier ça. Est-ce que à un moment donné, Justin Trudeau va dire peut-être que c'est le temps de laisser ma place? Il faut quand même y penser. Personnellement, je crois pas. Je crois qu'il va y être jusqu'à la fin. Je crois qu'il veut vraiment en découdre idéologiquement avec Pierre Poilievre. Puis mon opinion, c'est que Justin Trudeau pense, lui, qu'il va battre Pierre Poilievre dans une élection. Une chose est certaine, si ces deux-là devaient s'affronter en élection, on va avoir droit à un duel idéologique de coq, là, ça. Moi, j'espère que ce soit ça, parce que pour nous, analystes, ça va être très, très intéressant.
Ouais, encore faut-il que les deux aient des idéologies. Marie, toi, comment tu vois ça? Puis comment le Bloc va s'en sortir là-dedans à date? On pourrait dire que ça va assez bien pour le Bloc, là.
Bah, je crois qu'ils sont un petit peu en dessous du radar en ce moment. Puis tu parlais de la rencontre avec Steve faisait référence à la rencontre avec ses différents ministres. Oui, ça peut être de raison qu'on fait. Tu sais, les premiers ministres, ils font souvent ça avant d'opérer un remaniement. Mais ils font avant d'opérer un remaniement préélectoral, justement. Tu sais, je rejoins absolument Steve là-dessus sur le fait que là, faut que tu fasses un peu de ménage dans tes troupes, à dire qui j'enlève, qui se représente pas. Qui j'enlève du champ de caméra, je vais dire comme ça.
Qui je pourrais sauver le siège s'il était ministre aussi, là, j'imagine.
Oui, puis j'ai l'impression aussi, c'est pour faire référence à François Legault qui est en train de faire le même exercice. En tout cas, mon impression politique, c'est qu'on sort d'une période qui est quand même unique par rapport à la pandémie. J'ai l'impression que les deux premiers ministres, dans des contextes complètement différents, François Legault et Justin Trudeau, sont en train de faire un exercice similaire qui est aussi de dire on en est où là aujourd'hui? On en est où après ces trois ans de pandémie-là? C'est quoi la réalité terrain? C'est quoi que vous entendez sur le terrain? C'est quoi les priorités qu'on va mettre de l'avant? Un dans le cas de François Legault, parce que lui, il s'enligne pour un mandat pour les quatre prochaines années, donc il faut qu'il prenne la bonne direction. Et dans le cas de Justin Trudeau, ben là, c'est le contraire, c'est-à-dire lui, il s'enligne pour la campagne électorale. Donc, c'est la même chose, il veut aller taper sur les bons clous. C'est sûr que là, s'il affronte Poilievre, tu vois, je pense que ce qui est intéressant, oui, comme analyste politique, c'est le fun. Pour les électeurs aussi, ça va devenir très facile de faire la différence entre les deux. T'sais, autant pendant la campagne électorale provinciale, les électeurs disaient ben, on n'arrive pas à différencier les différents partis. Tout le monde est un petit peu à la même place là, au début de la campagne électorale, là, vous vous rappellerez. Mais là, au fédéral, on se retrouve avec un PC, c'est un parti conservateur d'extrême droite, un Justin Trudeau qui va aller complètement dans d'autres dans d'autres vidéos. Ça va être plus facile de faire son nid comme électeur aussi. Je pense que ça va être élégant par contre, mais.
Il y a un truc
je pense pas, là. Faut faire attention avec les étiquettes, par contre. L'étiquette extrême droite, Pierre Poilievre, là. On le voit ce que ça donne, l'extrême droite, quand on est au Brésil. On le voit ce que ça donne après ce qui s'est passé, par exemple, au Capitole. J'ai beaucoup de difficultés. Ou une droite assumée, une droite populiste, j'ai pas de problème avec ça. Mais, Marie, là-dessus, par exemple, moi, je fais attention avec ça, parce que je vois pas Pierre Poilievre. Oui, tu sais, il est assumé, il a appuyé les camionneurs, il a le ralliement des camionneurs, puis j'ai de la difficulté avec ce mot-là aussi, là, mais tu sais, il les a appuyés, il allait leur porter du café, tout ça. Mais je pense qu'il y a un sens politique qui est assez affiné pour être capable de à la fois peut-être courtiser un peu le mouvement, là, si on veut, anti-vax et tout ça, mais aussi de se positionner dans les différentes régions. Tu sais, il vient, par exemple, quand il est dans la région de la capitale nationale ou quand il vient au Québec, il est passé par Gatineau, il parle un français correct, il est capable de s'exprimer, il s'exprime quand même assez bien, puis ah ouais, à l'intérieur des
militants,
il pense bien.
Ça n'a rien à voir, Steve, le fait de parler en français puis le fait d'être de porter des valeurs de droite. Là, il n'y a aucun lien entre les deux. Si tu veux, on fera un débat exactement là-dessus. Moi, c'est des valeurs que je ne partage pas, là, ce que M. Poilievre met de l'avant. T'sais. Donc là, après ça, on peut faire un débat étymologique sur études de droite, d'extrême droite, de droite moderne, de très, très droite. Là, mais ça reste qu'il loge pas à la même place que le Parti libéral du Canada.
Non.
Pas du tout. Ça sera très, très tranché.
Là-dessus, il va falloir qu'on s'en reparle, vous deux, parce que une des questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est que, imaginez, le Bloc québécois, qui ne se présente, évidemment, qu'au Québec, score deux fois plus que le Parti vert, qui, lui, prétend être un parti national d'un océan à l'autre. Alors, je ne sais pas si le retour de Mme May... Je sais pas si le retour de Mme May va changer ça, mais disons que le Parti vert, là, fait vert Paul pas mal. Alors, Steve Fortin, Marie Montpetit, on se reparle. Au plaisir.
À demain.
Merci.